Dans la première lecture aujourd'hui, Paul continue d'inviter ses auditeurs à garder la tradition, ce qui est transmis. Donc c'est ça la tradition, hein, c'est ce que l'on transmet. Et il donne en l'espèce trois consignes. On peut les découper en tout cas en trois consignes. La question des fréquentations, la question de gagner sa vie et donc la question de suivre l'enseignement reçu. Alors, la fréquentation, il me semble que c'est intéressant aussi pour nous de voir que nous pouvons être influencés d'une part. Et donc chacun doit discerner ce qui lui convient pour répondre à l'appel qui est le sien, à la vocation qui est la sienne, qu'on soit dans le monde ou pas. Qu'est-ce que nous fréquentons? Voilà, chacun a une mission particulière, une capacité aussi d'aller à la rencontre de certaines personnes ou pas. Bon, ce sont un peu, évidemment, hein, tout le monde n'est pas missionnaire, par exemple. Aller à la rencontre de, enfin, missionnaire au sens que ça a pris aujourd'hui, parce que chaque chrétien est missionnaire. Mais nous sommes missionnaires à notre mesure. On n'est pas missionnaire forcément pour aller en Chine, en Russie, en Amérique latine, ou je ne sais où, ou même dans en France, dans des endroits plus difficiles. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Par contre, nous avons chacun une mission en étant ce que nous sommes, en correspondant à ce que nous pouvons faire. Nous pouvons rayonner quelque chose. Gagner sa vie et pas vivre dans l'oisiveté. Donc Paul fait sans doute allusion à des gens qui glandouillent. On peut imaginer ça. Et de fait, nous avons à l'inverse l'exemple de Jésus qui a pris le temps d'apprendre un métier, de l'exercer, avant de vivre 3 ans, non pas dans l'oisiveté, puisqu'il venait enseigner, mais il ne nous est pas dit dans l'Évangile que durant ces 3 dernières années de sa vie terrestre, il est à proprement parler travaillé. Maintenant, on ne peut pas tout faire à la fois. Mais voilà, en tout cas, il y a une part pour chaque chose et il peut y avoir parfois une part pour un temps pour le travail, un temps pour l'enseignement que l'on donne. Alors, il faut savoir aussi que les rabbins avaient toujours, et normalement aujourd'hui aussi d'ailleurs, ont toujours un travail manuel. C'est tout à fait intéressant de voir l'importance du travail manuel. On retrouve ça dans la vie monastique. L'importance d'avoir un travail avec les mains, qui n'est pas tapoté sur un clavier forcément, hein. Un véritable travail manuel, où finalement l'intérêt du travail manuel, c'est que tout le corps y participe. Parce qu'on est obligé d'être attentif à ce qu'on fait, regarder ce qu'on fait, être positionné dans de la bonne manière, qu'on fasse de la couture, qu'on fasse de la soudure, qu'on fasse du jardinage, tout ça implique la totalité du corps. Et puis Paul invite donc à suivre l'enseignement, c'est-à-dire que nous sommes dans un élan. On ne s'est pas fait soi-même. Et on arrive dans un élan. On dit qu'un enfant, quand il naît, des études qui ont été faites là-dessus, je crois, un enfant, quand il naît, il a une certaine perception de l'endroit où il va naître, parce qu'il a entendu des choses pendant quelques mois dans le ventre de sa maman, et il sait qu'il va arriver quelque part, il se dispose à arriver quelque part. Ce sont des études qui ont été faites. Je suis totalement incompétent pour les rapporter et pour en savoir la validité, mais ça ne me paraît pas tout à fait étonnant. Donc en fait, il s'agit de ne pas tout remettre en cause chaque jour. Saint Benoît, dans sa règle, dit qu'il faut suivre l'exemple des anciens. Alors on pourrait objecter que les anciens, des fois, c'est pas toujours le bon exemple, hein, parce que bon, ils font. C'est amusant de voir les postulants remettre en cause voilà, oui. Et puis alors le Père Maître leur dit, ben, écoutez, oui, j'entends bien, quand vous aurez son âge, on avisera de ce que vous arriverez à faire. Donc par contre, on suit l'enseignement, mais le corps ne suit plus toujours à un certain âge. Mais voilà, mais ces anciens ont un rôle très important dans la docilité qu'ils peuvent montrer. Je crois que c'est ça qui est très très qui rayonne beaucoup. La douceur, on manque tellement de douceur dans notre monde. Et puis c'est aussi une marque d'obéissance. Nous sommes dans un élan où nous obéissons. Voilà, quel est l'esprit qui anime les gens qui s'opposent au magistère du pape, par exemple? Point d'interrogation, hein. Et justement, on arrive aussi aux fruits. Quels sont les fruits que nous portons du fait de nos fréquentations, du fait de la vie que nous gagnons ou pas, du fait de l'enseignement que nous suivons? C'est à ces fruits qu'on reconnaît un arbre, dira Jésus. Les fruits, on les donne tous les ans et parfois même plusieurs fois par an. Donc, un arbre qui donne de beaux fruits, on ne considère pas qu'il est bon. On dit cette année, ça va. Et puis un jour, il peut tomber malade. Hein. Il faut faire attention à la manière dont on entend cette parabole de Jésus quand il en parle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ah ben oui, mais il y avait de beaux fruits. Oui, attention, attention. Justement, on va en parler dans la deuxième lecture des beaux, dans la, oui, l'évangile donc. L'autre lecture, la question des fruits. Quelle tradition est suivie par ces pharisiens? Or, Jésus n'y va pas par quatre chemins. Il parle d'hypocrite. C'est quand même assez expressif. En effet, le terme donc employé les deux fois par Jésus. Il y a donc. Alors, le premier, c'est. Ça vient de hypocrisis, hein, évidemment. Hypocritai et hypocrisis. Donc c'est intéressant d'aller voir encore une fois les étymologies. Parce qu'en fait, l'hypocrite, c'est quelqu'un qui répond, qui réplique et qui interprète. Ou bien c'est un acteur de théâtre, ou bien c'est celui qui cache, dissimule, prétend et qui est hypocrite. C'est pas simple, c'est pas un. C'est pas, il fait pas exprès. Hein. C'est quelqu'un qui est finalement dans un. Qui est dans une voie sans issue et qui essaie de se justifier. Donc des choses que nous connaissons très bien pour ne pas perdre la face. Finalement, c'est ça. Ne pas perdre la face. Et l'expression est tout à fait expressive parce que. Elle s'oppose à la capacité de conversion. Donc l'hypocrisie, je ne sais pas si c'est opposé à la lucidité, l'hypocrisie. Parce que précisément, l'hypocrite qui réplique a parfaitement compris le problème. Il a très bien compris qu'effectivement, alors il essaie de justifier une action qui n'est pas justifiable. Donc l'hypocrisie, c'est quand même très grave, parce que ça suppose. Alors attention, hein, faut distinguer le fait que l'on pense que quelqu'un est hypocrite. Ça, c'est un jugement dont il faut se garder, et la réalité de quelqu'un qui est hypocrite. Donc Jésus, il parle pas des personnes. Remarquez bien, dans l'évangile, c'est tout à fait intéressant, hein. Il parle des actes. Il ne juge pas la personne, en fait. Il juge les actes. Il dit, voilà ce que vous faites. Mais à l'intérieur, c'est pas brillant. Et donc, l'hypocrite essaie de se justifier. Il vit dans un cercle vicieux. Et par définition, un cercle, on ne peut pas en sortir. Donc, finalement, dans un cercle, on ne peut jamais se remettre en cause. Et c'est ça le drame que Jésus relève. Si vous ne vous remettez pas en cause, vous pourrirez dans votre péché, quoi. Et là, là, nous touchons quelque chose de vraiment très très difficile. Parce qu'il peut arriver que nous constations que nous sommes dans une difficulté, pas forcément un vice, hein, mais dans une difficulté où ben on voit bien que c'est pas très clair, mais voilà quoi, on pense quand même qu'on a raison, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que on vient d'ailleurs, parce que vous comprenez, dans ma famille on faisait pas comme ça, enfin que sais-je, etc. Et alors la réponse à ça, c'est que Jésus a pas fait ça, quoi. Jésus, il est venu enseigner ce que le Père lui donnait. Je n'ai jamais rien fait que le Père m'ait montré, dit Jésus. Donc c'est pas son enseignement qu'il transmet. Il ne se justifie pas. Il le dit lui-même. J'ai quelqu'un qui me justifie et qui témoigne de moi, c'est le Père. Donc je crois que lorsque nous nous justifions dans une certaine forme d'hypocrisie, ce qui peut nous arriver tous évidemment, eh bien il faut aller examiner notre relation à Dieu, notre relation au Père. Est-ce que nous sommes bien dans la tradition que Paul a donnée? Est-ce que nous cherchons réellement à refléter Jésus? Ou bien en fait, est-ce que nous cherchons à nous justifier? Voilà, bon. Des questions morales qui ne sont pas toujours très très drôles à se poser, mais on peut au moins demander au Seigneur de nous montrer si nous sommes dans cette tradition de Paul, ou bien si nous faisons notre petite cuisine plus ou moins lucidement. Voilà. Et Jésus finit par une phrase terrible, hein, achevez donc ce que vos pères ont commencé. Enfin, c'est vraiment une colère. Soyez cohérents, quoi. Allez au bout de votre massacre. Ce qui est peut-être une manière de leur faire prendre conscience qu'ils vont trop loin et qu'ils vont aller trop loin. Voilà. Ensuite, c'est des questions, hein, on ne peut pas très bien savoir.